Bonjour. Alors, je vais vous faire une présentation qui va être un petit peu originale parce qu'il n'y a pas de transparent. Je suis trop paresseux pour faire ça. À la place de ça, je vais vous montrer du code. Alors, le but de cette présentation, c'est de vous parler en fait de les différentes possibilités qu'il existe pour trouver des bibliothèques supplémentaires quand on fait la programmation avec Qt. C'est-à-dire que dans Qt, on trouve pas mal de choses. On trouve, il y a quand même de quoi faire pas mal de choses. On va gérer les fichiers du réseau, des choses graphiques avec deux technologies graphiques différentes. Malgré ça, on n'a pas forcément tout dans Qt. Il y a toujours des fonctionnalités supplémentaires où on va se dire, ah ben ça, je vais être obligé de le faire moi-même, ou alors je vais être obligé de, enfin, ce serait bien si je pouvais trouver d'abord en ligne une solution, une librairie qui fasse ce dont j'ai besoin. Pour faire par exemple des formats compressés comme les zip, pour faire de la vérification orthographique, pour générer des rapports et beaucoup d'autres choses comme ça qui sont des fonctionnalités additionnelles. Et alors, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est d'une part où on peut trouver la réponse à ces questions-là, à quel endroit on va pouvoir avoir une sorte de liste des bibliothèques disponibles, et puis d'autre part, comment on va les intégrer dans notre projet. Alors pour ça, je suis donc parti d'une application Qt que j'ai écrite pour les besoins de cette présentation. Donc une application très simple, avec simplement quelques widgets, une fenêtre. Donc on imagine ici une application pour les gens qui font des voyages professionnels. Quand ils rentrent ensuite au bureau, ils doivent créer un petit rapport sur leur voyage. Et donc on va simplement rentrer le titre du voyage, le nombre de jours, une petite description, une photo. Et on va rajouter des fonctionnalités ensuite dans cette application au fur et à mesure des besoins. Donc voilà l'application de base. Pour l'instant, c'est du Qt pur, il n'y a rien d'autre de particulier. Tout ce que je peux faire de plus, c'est cliquer sur le bouton pour choisir une image, et ça s'arrête à peu près là. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire avec cette application. Alors la première chose qu'on va vouloir rajouter, c'est en fait, dans la version initiale, les données, elles sont sauvées dans un fichier texte. Donc si je vais voir dans le répertoire de sortie, et que je regarde le fichier de sortie, pour l'instant, des choses parasites, voilà. Pour l'instant, c'est vraiment juste un fichier texte qui contient le texte. Mais comme il vient de rajouter une image, on aimerait aussi pouvoir sauver cette image dans le fichier. Alors évidemment, en texte, ça va pas trop le faire. On pourrait faire du base 64, mais ça va pas être très pratique. On va se dire, bon, mais en fait, ce qu'on aimerait faire là, c'est utiliser un format zip pour y mettre à la fois le texte et l'image. Et si on regarde dans l'API de Qt, on va se dire, ah bah tiens, il n'y a pas de quoi faire le format zip. Alors on va aller voir où on pourrait trouver donc des choses supplémentaires. Et donc ce qui a été mis en place pour ça, et en fait le but de cette présentation c'est de vous parler de ça, c'est un site web qui s'appelle include.org, include avec un Q parce que c'est pour Qt. Et donc sur ce site vous allez pouvoir trouver, donc le but c'est de référencer un maximum de librairies qui s'appuient sur Qt pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Alors elles sont classées entre ce qui n'est pas encore sorti en version stable, ce qui est en version stable, avoir la version développement. Donc ça c'est des choses qui sont sorties mais en version bêta. Et puis en particulier on peut filtrer sur tout ce qui existe aussi en licence commerciale, ou alors on peut dire aucun filtre et puis on aura la liste complète. Je dis aussi commercial puisque certaines d'entre elles sont disponibles à la fois en version GPL ou LGPL et en version commerciale. Donc tout dépend le filtre en fait qu'on veut appliquer à tout ça. Donc ça c'est la version web où on va pouvoir aller chercher des choses et se dire bon mais tiens qu'est-ce que ça fait ce truc là, et puis je vais avoir des renseignements supplémentaires sur la librairie, savoir un peu la licence, la page web et puis où trouver le code. Alors on pourrait bien sûr se servir de ça pour aller télécharger la dernière version et la compiler soi-même par exemple. Ce qui a été développé aussi, ce que j'ai mis en place, c'est un outil en ligne de commande qui s'appelle Include Client, qui va nous permettre d'aller faire la même chose mais en ligne de commande pour peut-être un jour intégrer ça dans les différents IDE, par exemple dans Qt Creator, ça pourrait être pas mal. Le concept qui est derrière, c'est un peu le même que le concept de Cpan pour Perl, où il y a la même chose pour d'autres langages, de se dire voilà, je veux pouvoir facilement aller chercher des librairies supplémentaires pour rajouter à mon application. Donc si je fais une include client list, ça va aller chercher en fait c'est les mêmes données que celles qui sont sur le site web, mais ça va les télécharger dans un format JSON et puis m'afficher le résultat. Donc ça permet de faire des greppes et des choses comme ça. Et puis en particulier, je vais pouvoir me servir d'include client aussi pour télécharger la dernière version de l'une de ces librairies. Donc par exemple, je pourrais faire un include client list et puis lui demander un peu est-ce qu'il y a des choses pour zip par exemple. Zip, c'est pas été mis dans la description de celui que je cherche, c'est bien. En fait, bon, Zip, c'est juste un exemple. Il y a beaucoup de formats d'archives comme ça. Et donc, le framework qui va m'intéresser, il s'appelle donc K-Archive. Et donc, je pourrais me servir d'Include pour aussi aller télécharger ça. Et donc, si je fais un download, je suis obligé de taper d'une seule main parce que c'est pas facile. K-Archive. Et du coup, il va me dire, ben voilà, je viens de télécharger un .tar.gz, et puis donc il me l'a mis là dans le répertoire où je suis, et puis je pourrais m'amuser à le compiler moi-même, etc. Alors c'est la présentation que j'ai faite au QT DevDays, où je montrais, bon, on va compiler ça à la main. Ici, dans un monde plus open source, on se dit, bon, en fait, pourquoi faire ça? J'utilise une distribution Linux, et dans ma distribution, il va y avoir des paquets qui vont déjà contenir ça. En particulier K-Archive, ça fait partie qui s'appelle KDE Frameworks. Et KDE Frameworks, il existe déjà des paquets pour la plupart des distributions. Donc, on va plutôt installer ça, ou partir du principe que c'est installé. Par exemple, sur OpenSUSE, il y a un dépôt séparé qui contient tous les paquets. C'est déjà tout précompilé. Et donc, il vous suffit en fait de vous assurer que ça s'est installé. Et vous aurez K-Archive qui sera déjà installé dans votre système. Donc, on va un peu sauter cette étape-là, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. De se dire, je veux dire, sous Linux, on va préférer faire ça avec un gestionnaire de paquets que de faire ça à la main. Donc, on en revient à notre bout de code ici. Et ce qu'on aimerait faire maintenant, c'est donc remplacer ce format texte en format zip. Alors pour faire ça, on va avoir besoin donc d'intégrer cette librairie K-Archive. Et alors là, sur cet exemple-là, j'utilise QMake. C'est souvent le cas pour des programmes Qt, c'est QMake ou CMake. Et donc les deux sont possibles. Avec QMake, tout ce qu'on a à faire, c'est Qt plus égal K-Archive, en majuscule. Ça va aller chercher un fichier de définition QMake qui a été installé par K-Archive lui-même. Et donc si je fais ça, je laisse reparser, je recompile, et il me dit, donc c'était normal, c'était prévu, c'est pas un bug, il me dit, je ne trouve pas le module Qt qui s'appelle K-Archive. Alors c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. En fait, QMake va aller chercher dans un chemin qui est géré par la variable d'environnement qui s'appelle QMakePath. Donc ce qu'on va pouvoir aller faire, c'est, je vais aller modifier l'environnement. Je vais aller rajouter, donc normalement il n'est pas du tout positionné par défaut, c'est quelque chose qui est assez... Ah si, là, je l'ai mis dans mes scripts, enfin sur la plupart des systèmes c'est pas mis en place. Donc ce qu'on va mettre à la place, c'est le répertoire d'installation des différents frameworks. Donc là, moi je les ai installés dans ce répertoire là, mais vous il serait peut-être plutôt dans le système. Donc là j'ai un inst, on va aller prendre ça. On va aller se mettre ça ici. Je vais recommencer. Et là, cette fois-ci, bon, il ne m'a pas fait d'erreur, ça ne se voit pas parce qu'il n'efface pas les erreurs d'une fois sur l'autre. Ça, c'est juste le parseur interne. Si je compile, il ne me fait pas de problème. Et donc, je vais pouvoir maintenant utiliser l'API fournie par K-Archive pour aller faire du format zip. Alors, cette API, où la trouver? Moi, j'aime bien regarder dans les fichiers d'en-tête, mais certains d'entre vous préfèrent les pages web. Donc, on va aller sur api.k2.org. Et on y trouve justement plusieurs versions de l'API, mais en particulier ce qui va nous intéresser, c'est Framework 5. Et là-dedans, on va aller chercher, dans la liste qui est ici, on va dire, tiens, K-Archive, c'est exactement ce que je veux. On va aller chercher la liste des classes qui s'y trouvent. Et on peut voir des choses génériques, K-Archive, un répertoire, un fichier dans une archive. Et puis des choses plus spécifiques, K-Zip, impeccable, c'est ce que je veux. Et donc, bon, on va pas lire ça, moi je la connais, et puis je vais vous montrer comment ça marche. On va servir de K-Zip du coup pour aller faire s'occuper de ça directement. Alors je vais être obligé de lâcher le micro et je vais essayer de parler fort. Parce que coder avec une seule main, c'est quand même pas facile. Donc ce qu'on va faire, on va aller remplacer le Qfile par un K-Zip. Changer l'extension pour pas avoir de surprise par la suite. Et rajouter l'include correspondant. Ok. Alors dans le zip, on va vouloir mettre plusieurs fichiers. Un fichier texte qui va contenir le texte qu'on avait auparavant. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va écrire dans le zip, je vais le renommer ce truc-là pour qu'il n'y ait pas de confusion. Ça, maintenant, ça va s'appeler zip. Et on va lui dire dans ce fichier zip, je vais écrire un fichier. Et donc là, ça me dit que le premier truc, c'est le nom du fichier. Donc je vais y mettre... ça comme on veut, description.txt. Ok, donc j'ai sauvé maintenant le texte dans un zip. On va pouvoir aller plus loin maintenant et sauver aussi l'image. Alors l'image, c'est un petit peu plus compliqué parce que il n'y a pas d'API prévu directement pour faire ça. Je vais être obligé de sauver l'image sous forme d'un bloc de données qui contient le PNG, et puis ensuite je vais mettre ça dans le fichier. Donc si on regarde, en fait, donc j'ai l'image dans un mpxmap, je peux sauver ça, et je peux sauver ça dans un iodevice. Et donc les iodevice, la classe de base pour les fichiers, pour les sockets, c'est n'importe quoi dans lequel je puisse lire ou écrire. Et donc là, ce que je veux, c'est lire et écrire dans un bout de mémoire. Et donc ça, c'est fourni par qbuffer. Donc je vais créer un buffer, et je vais pouvoir, je l'ouvre en écriture. Ça va me permettre d'écrire dedans. Je lui dis en PNG, par exemple. Et donc maintenant, j'ai mon buffer qui contient donc un qubit array avec les données. Je peux écrire ça dans le zip, comme on a fait au-dessus. Je vais appeler ça image.png, et puis je peux y mettre le byte array qui est contenu dans le buffer. On va lancer ça. Il manque peut-être un include pour qbuffer, exactement. On va le rajouter comme ça. Alors, la sauvegarde, elle se fait immédiatement. Donc ça y est, c'est fait, c'est sauvé. On va aller voir dans le répertoire à la sortie. Voilà, et là maintenant, j'ai un savedfile.zip. Si je regarde le contenu, je vois bien description.txt et image.png. J'ai donc bien créé un fichier zip facilement avec ça. Alors, l'un des trucs qu'on voit là, c'est que l'ensemble des données de l'image passe par la mémoire dans ce buffer avant d'arriver dans le fichier zip. Si on avait vraiment des très grosses quantités de données, on pourrait optimiser ça parce que c'est possible, en fait, de plutôt dire au zip de créer un new device et puis de s'en servir pour sauver les choses dedans. Donc il y a moyen de faire ça de manière plus incrémentale, mais ça demande un petit peu plus de code. Donc là, j'ai fait la version simple, on fait un gros bloc mémoire et puis on le sort tout de suite. Alors là, maintenant, évidemment, il reste à faire la lecture de ces données-là. Donc ça va se faire de manière similaire avec KZIP. On va simplement utiliser les API pour aller chercher les fichiers à l'intérieur du fichier ZIP. Ok. Alors, dans le ZIP, j'ai une méthode qui s'appelle directory qui me retourne le répertoire racine, en fait, du ZIP. Donc ça, c'est un cas archive directory. Ça, la racine. Et puis depuis ce truc là on peut aller chercher le contenu, en fait. Je peux lui dire, il y a deux utilisations possibles d'un format d'archive. Soit je sais pas ce qu'il y a dedans et je veux faire un logiciel qui présente le contenu d'une archive, alors je suis obligé de faire tout de manière très générique. Soit je veux faire ça de manière très concrète, c'est le format de ce programme, je sais ce qu'il y a dedans, donc je peux aller chercher directement le fichier. Ouais, il me faut des includes là pour la complétion. Je connais le nom de mon fichier, il s'appelait description.txt. Et donc ça va me retourner un cas. Ça retourne quoi, en fait? On va lui demander. Ouais, ça retourne un const archive file. Un petit peu de problème de mise en place. Voilà, puis j'ai plus qu'à aller chercher le contenu de ce fichier-là. Par exemple, le qtextream, je pourrais dire directement, je vais faire ça sur le contenu du fichier, et ça va me lire le texte qui se trouvait là-dedans. On va tester ça. Vous m'interrompez si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas. Ah ouais, il faut que je change l'extension. C'est ça ? Ouais. Et puis c'est const, parce que c'est de la lecture seule, donc il va mettre avec ça. Voilà, donc là ça marche toujours. Je vais vérifier quand même que c'est bien la bonne version, parce que sinon ça ressemble à ce qu'il y avait avant, mais ah, ça marche. Il m'ouvre bien le nouveau fichier, le .zip, et il me lit le fichier texte qui se trouve dedans. Donc après, on peut faire la même chose pour l'image. Et puis on va aller mettre ça dans le Pixmap. Alors lui, c'est pratique, il a un load from data à qui on peut donner directement les données brutes, c'est du PNG en fait, c'est lui qui va le décoder. Donc on va aller chercher les données qui se trouvent dans ce fichier PNG avec le data, et puis je vais lui dire que c'est du PNG. Donc là j'ai changé le Pixmap, j'avais une variable membre QPixmap, c'était pratique pour sauver. Par contre là, la lecture, il faut que j'aille le mettre ensuite dans l'interface graphique, donc ça je vais lui donner à passer par un QCon. Et ça va aller changer l'image graphiquement. Donc là, à la dernière fois que j'ai sauvé, il n'y avait pas l'image, donc elle n'est pas dans le zip, il faut que je la remette. Je ferme et je relance. Et cette fois-ci, au chargement, c'est bien aller chercher l'image qui se trouvait dans le zip.
Des questions là-dessus ? Bon, ben voilà, ça c'était la partie facile. Donc c'était un exemple de fonctionnalité supplémentaire qu'on va trouver dans une librairie séparée. Un autre exemple, on pourrait se dire, tiens, ben dans cette application, j'aimerais bien faire la correction orthographique du texte que je tape ici, pour que si je tape n'importe quoi, ça me mette un souligné rouge. Alors ça aussi, si on regarde dans Qt, on va pas vraiment trouver ce qu'on veut. Il n'y a pas vraiment ce qu'il faut pour faire ça. Alors qu'on va pouvoir trouver donc dans les différentes librairies qui sont listées sur Include. Si on se dit, qu'est-ce que vous avez au niveau spell checking ? Cette fois-ci, ça marche bien. Le premier qui me sort, il s'appelle Sonnet. Et donc ça aussi, c'est un framework KDE qu'on va pouvoir utiliser pour faire ça. Donc, on va recommencer à dire, je veux ajouter des choses ici. Alors, Sonnet, on va aller voir la page web d'abord. Non, faut que je remonte d'un cran. Framework. Ce qui est assez bien fait dans ces pages, à part que là je suis un peu très zoomé, donc la mise en page n'est pas terrible, mais au-delà de me faire une description de ce que c'est que Sonnet et puis un exemple simple d'utilisation, je vois sur la gauche, si je descends un peu, comment utiliser ce framework si j'utilise CMake, comment utiliser ce framework si j'utilise QMake. Ben, ça tombe bien, c'est exactement ce que je suis en train de faire, donc je vais prendre exactement ça, le mettre dans mon fichier .pro, et le tour est joué. Alors après, ce qu'on va vouloir faire, donc cette histoire de correction orthographique du text edit. Donc le text edit, il s'appelle Travel Description, et je veux simplement activer le spell checking pour faire ça. Si je retourne voir la page d'API, c'est marrant parce que l'exemple qui est ici, c'est justement comment faire en sorte d'avoir du spell checking dans un text edit. Ah bah ça me plaît bien ça. Je vais prendre exactement ça. Quelle coïncidence. Voilà, à part que le text edit il a changé de nom. C'est dur en programmation, hein, copier-coller. Tant qu'on y est, on va prendre l'include aussi. Alors là, un petit problème. Il me dit qu'il ne le trouve pas, parce qu'en fait, je ne suis pas sûr que la page web soit correcte. Sonnet, en fait, c'est un framework qui utilise les namespaces, et donc les fichiers d'entête aussi, ils sont dans un namespace. Donc normalement, il faut lui dire Sonnet slash, voilà, spellcheck decorator. On peut le faire comme ça, par exemple. Et donc là, ça fonctionne. Il me fait des erreurs sur include, sur HTTP. Ils m'ont fait aussi sur didn't. Je suis pas sûr que l'apostrophe soit correcte. C'est marrant ça, j'avais pas eu ce problème la dernière fois que j'ai fait cette démo. Bon, c'est la loi des démos, dès qu'on fait un truc ça marche pas. Bon, en tout cas, je vous montre que si j'écris n'importe quoi, ça me fait bien une erreur. Ça, c'est un bug, ça devrait pas me faire d'erreur. Alors après, bon, vous allez me dire c'est sympa l'anglais, mais le français c'est quand même pas mal aussi. Et donc ce qu'on peut faire par exemple, si on veut faire ça en français, on va pouvoir utiliser l'API Decorator. On va, alors lui, en fait, il délègue tout le travail à un truc qui s'appelle Highlighter. Et puis là-dedans, on peut aller changer la langue. Sauf que là, il manque un include. On va aller récupérer le nom de la classe qui est ici. Set Current Language, impeccable. France. Je relance l'appli. Donc cette fois-ci, bien sûr, il n'y a plus rien qui lui plaît, sauf train, parce qu'ils disent comme nous pour les trains, donc ça va, ça tombe bien, et Internet. Donc voilà, on a pu changer la langue de manière assez simple. Des questions sur cet exemple, correction orthographique? Alors évidemment, on peut aller bien plus loin, hein. On peut implémenter aussi la boîte de dialogue qui propose des suggestions alternatives. Pour ce qui est du menu bouton droit, lui ça va, il est déjà fait en fait, ça fait partie du décorateur de TextEdit. Et vous voyez que le choix d'API qui a été fait ici, c'est en fait, plutôt que de dire, si vous voulez un TextEdit qui fasse de la correction orthographique, il faut utiliser telle classe qui dérive de QTextEdit et qui rajoute des fonctionnalités. Historiquement, c'est comme ça qu'on faisait dans les librairies de KDE, c'était beaucoup, on dérive des classes Qt et on rajoute des fonctionnalités. Ça a l'inconvénient d'être beaucoup moins flexible en fait que ce qu'on a fait là, qui est, je prends un QTextEdit existant, j'ai pas besoin d'y toucher, par contre je vais aller m'intégrer avec en rajoutant ce décorateur, c'est-à-dire que c'est juste un truc externe qui va y rajouter les fonctionnalités. Et du coup c'est beaucoup plus facile comme ça de... Bah, disons de rajouter des fonctionnalités, éventuellement plus d'une, à un composant existant. Si j'ai la classe qui dérive pour rajouter un truc et la classe qui dérive pour rajouter autre chose, comment je fais si je veux les deux? Ah, je peux pas, je suis coincé. Alors que là, avec ce principe-là, on pourrait très bien avoir un autre décorateur qui fasse autre chose, et puis je peux s'agir si j'utilise l'un ou l'autre, le deuxième pourrait venir d'une autre librairie, etc. Et puis vous voyez qu'en termes d'intégration, c'est encore plus facile que d'aller changer la classe du truc qui est défini ailleurs, etc. Ok, bon, un troisième exemple alors. Le but de tout ça, de cette application, c'était quand même, je remplis dans cette boîte de dialogue, et puis après ça, je vais cliquer sur « Générer un rapport », et là pour l'instant, ça fait pas grand-chose, pour aller me faire en fait un document qui sera imprimable, et avant de l'imprimer, j'aime pas gâcher du papier, j'aimerais bien le voir d'abord à l'écran, avoir un aperçu avant impression. Et donc ce genre de choses, dans Qt, il y a le support pour faire des impressions, mais c'est très basique. Il faut utiliser un QPainter sur un QPrinter et dire à la main, je veux dessiner du texte à tel endroit, sauter la page maintenant. Ça se fait, mais c'est quand même assez pénible. Et donc j'ai écrit une bibliothèque qui s'appelle KDReports, qui permet de faire ça de manière beaucoup plus intégrée. On va aller créer les éléments, les ajouter à un rapport, demander une boîte d'aperçu, ça va apparaître tout seul, il n'y aura plus qu'à faire imprimer, ce sera beaucoup plus simple à utiliser. Alors si on regarde, on reprend à la source, si on regarde ce que nous propose Include et que je fais une recherche sur Report, on voit que je ne suis pas le seul à avoir identifié un besoin là-dedans, il y a 5 solutions, enfin 4 en fait, parce que Reporting of Idle Time ça n'a rien à voir, mais donc il y en a 4 générateurs de rapports disponibles comme librairie par TQT. Alors je vais en choisir un au hasard, celui que j'ai écrit moi, donc il y a des reports. Alors KDReports c'est sur GitHub, donc c'est quelque chose qui fait pas vraiment partie de la communauté KDE, c'est quelque chose que j'ai écrit plutôt avec ma casquette boulot, mais qui est en logiciel libre, ça vient de passer en LGPL. Donc l'intégration est un petit peu différente, c'est pour vous montrer aussi que c'est l'avantage et l'inconvénient de quelque chose comme Include, c'est on liste tout ce qui existe, mais c'est des choses qui viennent de communautés différentes, et donc c'est fait de manière différente, c'est pas forcément aussi intégré que les différents frameworks de KDE, qui eux sont très bien intégrés entre eux. Là, si je prenais même n'importe quel autre des générateurs de rapports qui sont là, ils ont été faits par des gens très différents, avec des systèmes de build différents, et beaucoup de choses qui sont pas forcément homogènes. Mais au moins, avec Include, on a la liste à un seul endroit, ce qui est déjà mieux qu'auparavant, où il fallait aller un peu à la recherche de partout sur Internet pour voir ce qui existe. Là, au moins, la liste, elle est propre, elle est le plus complète possible, et on a tous les renseignements nécessaires. Donc, KDReports, il faudrait le prendre sur GitHub avec un git clone. Bon, vous me faites confiance, vous avez déjà vu faire ça, c'est pas le plus intéressant. Ce qu'on va faire après, donc, pour utiliser KDReports, on va aller regarder, donc je dois l'avoir dans les sources. Ah non, je ne l'ai pas, je ne peux pas tricher. En fait, le principe avec KDReports, je vais voir dans les sources de KDReports lui-même, comme ce n'est pas basé sur CMake, il n'y a pas cette magie de dire on va aller créer des fichiers QMake automatiquement installés au bon endroit avec les bonnes variables dedans, c'est un petit peu plus manuel, c'est ce qui est fait par la plupart des projets QMake, c'est de dire bon, y a un point prix, donc un fichier qu'on peut inclure dans notre point pro qui contient tout ce qu'il faut, et donc le but c'est de le réutiliser, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller le copier dans nos sources pour pouvoir ensuite s'en servir dans le point pro ici. On peut dire load KDReports.pri. Alors quand on va lancer ça, QMake va nous dire pas grand chose. Voilà. Il va nous dire, bah, c'est bien gentil, mais je ne trouve pas. Oui, il devrait au moins le trouver un peu quand même. C'est pas load, c'est include, pardon. Load, c'est pour les PRF. Donc on va dire, je vais inclure le PRI, et si je lance QMake, le message que nous dit le PRI, c'est il faut mettre en place la variable d'environnement KDReports dir pour savoir où trouver KDReports. Ça pourrait être un peu n'importe où sur le système. Donc on va aller rajouter une variable ici. On sait une fois de plus, si on utilise des paquets, il y a des chances que tout soit bien installé au bon endroit et qu'on ait moins de choses à faire à la main. Mais là, je vous présente un peu le cas le pire où on fait tout à la main, on installe ça à droite et à gauche, et donc c'est à nous de configurer les choses. Donc là, on va aller chercher le répertoire d'installation de KDReports, qui est le même en fait. Je relance QMake, je regarde ce qu'il me dit. Rien, c'est plutôt bien. Je vais vérifier quand même. Hop. Ouais, impeccable. Donc on est prêt, on va pouvoir utiliser KDReports pour générer un rapport. Donc si je vais dans la méthode, le slot qui est appelé quand je clique sur le bouton, pour l'instant il ne s'y passe pas grand chose, il y a juste un to-do. Et donc ce qu'on va faire à la place, c'est d'utiliser KDReports. Alors, un petit include. C'est un peu comme dans Qt, plutôt que d'inclure 36 000 fichiers différents, la solution simple pour les démos, c'est de dire j'inclus tout. Il y a un KDReports qui prend tout ce qu'il y a dedans. Donc ça, je prends, il y aura tout dedans. Ce qu'on a donc juste à faire, c'est créer un rapport, ajouter les éléments, et demander ensuite à avoir une boîte de dialogue pour l'aperçu avant l'impression.
Donc première étape, créer un rapport. Donc report. Ce qu'on peut faire avec ça, c'est rajouter les éléments. Donc ça se fait de la manière suivante, add element. Et puis je peux lui dire, bah, je voudrais un élément en texte, par exemple. Bonjour, juste pour tester. Et puis pour le voir à l'écran, ce rapport, KDReports va nous fournir quelque chose qui s'appelle Preview Dialogue. Et donc on lui donne simplement le rapport à afficher et un widget parent. Et puis on fait un exec dessus. Et donc, pour faire les choses de manière très incrémentale, je vais juste afficher ça d'abord, puis après ça, on va aller compléter notre rapport. Alors, ça nous montre une limitation de QMake. Il nous dit, je ne trouve pas QDOM element, parce qu'en fait, ça vient d'une librairie Qt différente. Et on est obligé de dire à la main, il faut que je me serve de cette librairie Qt, qui s'appelle QTXML. Donc, il faut que je la rajoute ici. Et puis, il va nous faire pareil avec autre chose, QPrinter, PrintSupport.
Donc j'ai rajouté les librairies Qt manquantes, c'est l'un des inconvénients par rapport à ces mecs. Et là du coup, quand je demande de générer le rapport, j'ai donc maintenant la boîte de dialogue d'aperçu avant impression qui apparaît et qui me montre le rapport. J'ai l'aperçu de la page ici qui est passionnant, et puis surtout ça me permet ensuite, le côté imprimé, s'intégrer dans la boîte de dialogue, donc j'ai rien de plus à faire en fait. L'utilisateur va pouvoir venir ici et imprimer. Donc j'ai tout en place pour compléter mon rapport à partir des données qui se trouvent dans l'application.
On va mettre un titre par exemple, donc Travel Report, on peut faire ça en français, rapport de voyage. Alors là maintenant j'aimerais quand même que le titre il soit plus gros, alors si je mets tout dans la même ligne, ça ne va pas trop le faire, on va sortir ça. Donc ça, c'est équivalent, sauf que maintenant, je peux aller changer la police, mettre ça en énorme, 26, et là, ça devrait être plus gros. Ah, beaucoup plus gros, ça marche mieux. Ok, maintenant, on va aller se rajouter plus de texte en dessous. On va aller y mettre la description du voyage. Tout comme texte. Voilà, et là, on a le texte, on peut rajouter l'image aussi. L'image, on va peut-être passer par un élément séparé pour pouvoir le paramétrer un peu. On va y mettre le pixmap. On va l'ajouter, on verra après si on a besoin de changer des choses. Ça marche, moins grand.
Après, on peut évidemment améliorer les choses. L'un des points qui est intéressant avec Cadet Report,
l'une des choses où Cadet Report nous fait vraiment gagner du temps et pas mal d'efforts, c'est si on veut mettre en place la pagination, donc ça va gérer le fait qu'au bout d'un moment, il faut passer à la page suivante, et en particulier si on veut mettre en place des en-têtes et des pieds de page et ce genre de choses. Et donc ça peut être géré, on va pouvoir se mettre un en-tête avec des numéros de page par exemple. Bon, j'ai du mal à taper, alors je vais vous coller ça, parce qu'évidemment j'ai tout qui est prêt dans un coin. Hop. On dit je veux aller chercher l'en-tête. Dans l'en-tête, je vais mettre le texte page suivi d'une variable. C'est comme dans les traitements de texte, quoi. Le numéro de page, c'est une variable. Donc j'ajoute la variable numéro de page, j'ajoute un slash, j'ajoute le nombre de pages. Tant que j'y suis, je peux même mettre une ligne horizontale. Et si je relance ça. Maintenant, en haut, il y a marqué page 1 sur 1, et puis j'ai une ligne horizontale. Si on voulait voir un peu ce que ça donne, on voudrait peut-être se rajouter une deuxième page. Je vais mettre un saut de page entre le texte et l'image, par exemple. Add page break. Voilà, page 1 sur 2, et puis là, j'ai page 2 sur 2. Ça marche. Des questions ? J'ai perdu tout le monde. Trop facile, trop dur. Ok. Des questions sur autre chose que. Enfin, pas spécifique à KD Report sinon, mais sur Include, sur KD Frameworks. Oui. Non, en fait, pour rajouter des librairies sur Include, il y a deux solutions. La solution de facilité, c'est d'envoyer un mail au mainteneur d'Include. Il y a le truc sur la page qui explique, bon voilà, vous m'envoyez un mail. Et en fait, mieux que ça, parce que le mail, ça va lui demander à lui d'aller assembler les données, si on veut lui faciliter la tâche, on va préparer le fichier JSON en fait, qui contient les données. Donc, très bonne question, je vais montrer un peu à quoi ça ressemble. Le fichier include pour KD Reports, par exemple, il ressemble à ça. C'est un fichier JSON avec le nom, le numéro de la dernière version, un titre, différentes URL, les licences, une description, les auteurs, la maturité et les plateformes. Donc c'est toutes les données qu'on trouve sur le site web, il suffit de récupérer le nom des clés qui sont ici. Donc on prépare le manifeste. Bon déjà, si on envoie ça par mail au mainteneur, ça lui facilite déjà beaucoup la tâche. On peut aller plus loin. En fait, le site web est entièrement généré à partir d'un dépôt Git. Et donc ce qu'on peut faire aussi, c'est de committer ça dans Git. En fait, il a voulu rendre ça super facile, donc il a même deux dépôts Git. Un qui est dans KDE, donc pour les gens qui ont des accès dans KDE, je peux aller directement committer et rajouter le truc. Ou alors, pour des contributeurs plus externes, il a aussi mis un miroir de ce dépôt sur GitHub, et donc on peut préparer une merge request dans GitHub, et donc lui il a juste à cliquer sur le bouton et c'est intégré aussi. Et derrière, c'est entièrement automatisé. Je me suis rendu compte hier qu'il manquait la notion de LGPL sur KD Reports, puisque c'est récent. Je vais le rajouter, j'ai fait git push, j'ai fait reload sur la page web, ça affiche LGPL, c'est immédiat. Il a fait un truc sympa pour ça. Et comme le but c'est d'être très inclusif, il ne va pas refuser la moindre librairie basée sur Qt. Quoi. Tout est valide pour se mettre là. Après ça, bon, si c'est des choses qui n'ont pas été réalisées en version stable, il y a une catégorie pour ça. Si c'est commercial, il y a une catégorie pour ça. Donc c'est très ouvert, tout peut y aller. Quoi. Ouais.
Tu parlais sur Qt Creator, mais les gens ils sont motivés à intégrer ça dans Qt Creator ou le fait de pouvoir récupérer, de pouvoir intégrer directement Qt Creator.
Alors en fait, c'est un peu le but à long terme, mais je pense qu'il manque une étape avant ça, avant d'aller changer l'interface graphique de Qt Creator. À l'heure actuelle, en fait, ce qui est proposé par Include, et en particulier par KDE Frameworks, à mon avis, sous Linux, les gens vont préférer utiliser les paquets de la distribution. C'est quand même la meilleure solution, la plus intégrée, ça marche tout seul, c'est idéal. Alors, pas... Et
Effectivement, il peut y avoir le cas où le truc n'est pas packagé sous Linux. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait être... C'est compliqué à intégrer puisqu'il y a ce problème de chacun a un système de build différent. Alors que ferait Qt Creator pour aller chercher ça? Ça demanderait peut-être l'une des idées de Cornelius, le mainteneur d'Include, c'était de dire, de proposer à terme pas seulement de télécharger les sources, mais aussi de télécharger des paquets. Lui, il travaille chez OpenSUSE, donc il y a la possibilité d'utiliser l'OpenSUSE Build Service pour préparer des choses pour toutes les distros, pas seulement pour OpenSUSE. Et donc, il y aurait peut-être cette idée de dire, on vous propose des paquets pour votre distribution, même pour des choses qui font pas déjà partie intégrante de la distribution, comme pour KDE Frameworks, effectivement. Ça, c'est une bonne remarque. Et donc, le jour où ça, c'est disponible, ça devient plus facile de, après ça, rajouter un bouton dans Qt Creator, quand on crée un projet ou en cours de projet, de dire, je veux utiliser tel et tel framework et que ça ira pas payer ce qu'il faut. Mais c'est vrai que sinon, au-delà de ça, comme je pense que quand même il y a beaucoup de choses qui vont être packagées pour les différentes... Enfin, c'est déjà le cas pour Frameworks et puis ce sera le cas pour d'autres choses. Pour moi, la cible en termes de téléchargement avec Include, c'est plutôt pour les utilisateurs Windows. Et là, il y a plus de travail à faire en termes d'intégration que tout soit déjà disponible. Il y a des complications supplémentaires, comme par exemple, je vous ai montré KArchive, ça marche tout seul si je le télécharge et que je le compile sur un système Linux, aucun problème. Mais ça se base sur des librairies comme la Zlib, Bzip2, etc., qui sont pas disponibles sous Windows. Donc là-bas, il faut en plus rajouter la notion de dépendance. Ça, c'est un peu la prochaine étape pour Include, parce que même dans le cas le plus simple des frameworks sous Linux, si je pars d'un ordi qui n'est pas le mien et qui est vraiment vierge, avec Qt et Qt Creator, première étape, je télécharge KArchive, je veux le compiler à la main, qu'est-ce que ça va me dire? Bon, il faut installer CMake, ça d'accord, il y a un paquet, et puis ça va me dire aussi, il faut un module supplémentaire, le Extra CMake Modules, qui est une dépendance, qui ça contient juste quelques fichiers de compilation pour CMake, mais il faut le télécharger en plus. Donc dès la première étape, il y a besoin en fait d'avoir la gestion des dépendances dans Include. Donc ça, c'est vraiment... c'est vraiment la prochaine étape, quoi. Il faut rajouter ça, il faut rajouter les paquets binaires, et puis donc petit à petit on va arriver à un système qui sera un peu plus intégré et automatisé, et une fois que ce sera le cas, là on pourra penser à se dire, tiens, on va aller un peu plus loin et rajouter le truc dans Qt Creator et dans KDevelop pour qu'en trois clics on puisse rapatrier les frameworks voulus. Il y avait une autre question par ici, non? Ouais, Include Clients, c'est un logiciel Qt Core qui est dans un dépôt Git dans KDE. Donc si tu fais un Git clone Include Client, en fait, ça devrait sortir tout seul. Hop là. Bon, ça c'est Include Data, ça c'est les données pour le site web, c'est quelque chose de différent. Et j'ai Include Client, il doit être ici aussi. Ah, il est sur git.kde.org, websites include. Je viens de dire une bêtise. Ça, c'est le script en Ruby qui sert pour le site web, et puis il y a aussi une API côté Include Client, il est ailleurs en fait. Là, c'est ça, c'est le dépôt include-client sur git.kde.org. Et donc ça, c'est du code Qt5 pur en fait. J'ai simplement utilisé Qnetwork Access Manager et le support JSON dans Qt. Alors évidemment, pour l'instant, le Include Client, il fait que ce que je viens de montrer, c'est-à-dire list et download. Donc il y a moyen de faire beaucoup plus de choses, si c'est quelque chose qui t'intéresse. On est tout à fait, il y a tout à fait de la place pour faire mieux et pour rajouter des choses, quoi. En particulier, il faudrait y rajouter la gestion des dépendances, il faudrait rajouter les paquets binaires, ce genre de choses, quoi. Très basique pour l'instant, mais bon, ça montre un peu dans quelle direction on a envie d'aller. D'autres questions? Bon, ben je vous remercie. Bon codage.